Bien, oui, de Louis XIII au prince impérial qu'elle jouait pour les princes, bien que n'étant pas au plus à proprement parler dans le monde des jouets et de l'enfance, j'ai donc plaisir à répondre à l'invitation qui m'a été faite de vous parler des jouets princiers entre le XVIIe et le XIXe siècle. Cette intervention est, je dois le dire, dans le prolongement d'un article écrit il y a fort longtemps, en 1985, dans la Revue du Louvre et plus récemment d'une exposition dont j'étais co-commissaire et qui s'intitulait « Jouets de princes ». Donc, très brièvement, nous nous intéresserons au jeune Louis XIII, aux enfants de Marie-Antoinette et de Louis XVI, en particulier au dauphin, futur Louis XVII, puis au roi de Rome et au prince impérial. Concernant les enfants royaux, les sources les plus aisées sont les récits et les documents d'archives publiés, c'est ceux que j'ai consultés, des factures, des inventaires, des lettres, sans négliger l'iconographie, même si cette source n'est pas toujours la plus sûre, et comme je vais vous en montrer, vous montrer quelques-unes ici. L'enfance des jeunes princes passe par trois étapes. Celle de la petite enfance, avec la présence de la nourrice, puis celle jusqu'à 7 ou 8 ans avec la gouvernante, et ensuite celle de l'enfance et de l'adolescence avec le gouverneur, quand le petit prince passe aux hommes, la formule consacrée à ce moment-là. Il ne faut plus vous amuser à ces petits jouets, ni à plus faire le chartier, vous êtes grand, vous n'êtes plus enfant, dit-on au petit Louis XIII, lorsqu'il atteint l'âge de 7 ans. Cette éducation se poursuit à quelques exceptions près, sous l'Ancien Régime et après la Révolution, sous la Royauté et sous l'Empire. À chaque âge, ses jouets. Au tout petit, le hochet et les moulins à vent, car ils favorisent le sens de la vue, du toucher et de l'ouïe. Les hochets avec lesquels les jeunes princes sont souvent représentés, comme ici sur cette gravure qui reprend un tableau de Boucher, qui nous montre le portrait du duc de Montpensier, qui deviendra plus tard duc d'Orléans, puis Philippe Égalité. Il est âgé de 2 ans sur ce tableau. Donc les jeunes princes sont très souvent représentés avec des hochets qui sont précieux, qui sont en vermeil, en argent, avec un manche de corail. Pourquoi le corail? Parce que c'est très protecteur et tous les enfants, pendant très longtemps, ont été menacés d'une mort précoce ou en tout cas de maladie. Et le corail est introduit sous différentes formes pour protéger l'enfant, que ce soit les enfants du peuple comme les enfants des rois. Ils ont des colliers en corail et ils ont des hochets avec des manches de corail. Mais ça peut être aussi des manches qui sont en cristal de roche. Et il y a des grelots. Les grelots qui ornent les hochets et qui sont enfermés à l'intérieur font du bruit. Et donc, ils empêchent le bébé de pleurer, en éloignant aussi les mauvais esprits. Donc, vous voyez que le hochet a beaucoup de fonctions pour tous les enfants. Donc ici, vous voyez en effet ce jeune prince. Son hochet est au bout d'une cordelière, en bas de sa robe. Je n'ai pas le gros plan ici. Et il tient sur ses genoux une petite planchette avec un mouton. On aura l'occasion de reparler des petits animaux joujoux pour les enfants. Et puis il y a sur la gauche un panier avec des cartes à jouer. Et l'enfant tient un petit cheval. Le cheval étant également un des jouets préférés des enfants, quel qu'il soit. Ces jeunes héritiers sont souvent très gâtés par leurs parents ou leurs proches. Grâce au journal d'Hérouard, médecin attaché à la personne du jeune Louis XIII et tenu pendant 27 ans, le journal, nous savons tout de la vie quotidienne du prince, y compris les jouets qu'il reçoit et qu'il achète. Voilà. Ah, là, c'était pour vous montrer une autre photo ou un autre tableau qui vous montre beaucoup plus tard, à la période Empire probablement, un petit enfant dans sa chaise basse qui tient un hochet, d'ailleurs pas du tout par son manche, hein, il le tient par l'autre bout. Voilà une gravure d'Abraham Bosse qui nous montre Anne d'Autriche et le dauphin, ou le dauphin visitant l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu. Et vous voyez sur la gauche le dauphin, qui est d'ailleurs habillé en petite fille, comme c'était aussi l'usage jusqu'à 7 ans à peu près, qui tient un petit moulin à vent, moulin qu'on voit souvent aussi accompagner les princes pendant cette période. Ainsi, pour notre petit roi futur Louis XIII, à 3 ans, en 1604, il reçoit de Sully un petit carrosse plein de poupées et des objets de bois venus de Nuremberg, Nuremberg étant déjà un lieu de fabrication célèbre. Sa remueuse lui donne un petit ménage de plomb, un encensoir, un calice, un coq et une ferme, le tout dans une boîte. 200 ans plus tard, bien plus tard, le roi de Rome, héritier tant attendu de Napoléon, reçoit dès sa naissance de nombreux cadeaux, à commencer par des hochets à sifflets, en vermeil, en cristal, en corail. Et là, nous en avons de nombreux exemples, puisqu'ils sont dans les musées, que ce soit au musée donc de Carnavalet et aussi au musée de Fontainebleau, et aussi en main privée. Marie-Louise, Madame de Montesquieu, sa gouvernante, Caroline Bonaparte, qui est à la fois sa tante et sa marraine, toujours au sujet du roi de Rome, offre donc au petit roi, avant sa première année, des quilles, des petits ménages en bois, une toupie, un tambour, des totons et un beau mouton recouvert de laine monté sur roulette. C'est un petit peu celui que nous avons vu déjà représenté avec le duc de Montpensier. Car les animaux à roulette ou en automate sont en effet des jouets apparemment très aimés des enfants princiers. Le jeune Louis XV reçut, offert par la ville de Paris, un éléphant, dont j'ai la reproduction ici. Donc, il reçut en effet, de la part de la ville de Paris, un éléphant en bois recouvert de peau aux dimensions imposantes, puisqu'il fait 61 cm de haut et 84 cm de large. Et il se trouve aujourd'hui au musée du cuir à Offenbach, en Allemagne. Quant aux vrais animaux, les oiseaux, les chevaux, les moutons, qui sont aussi très nombreux, ce sont plutôt des compagnons, évidemment, pour les enfants que des jouets, encore que ces animaux peuvent aussi être des jouets pour les enfants. Là, nous avons un enfant au tambour, qui est de Tomir, auprès de l'enfant, un petit cheval avec son cavalier. En fait, c'est un tableau qui montre un personnage anonyme, mais je l'ai mis ici parce que je trouve qu'il ressemble étonnamment, il peut tout à fait nous rappeler justement le roi de Rome. Il est en habit, en effet, il est jeune, et il est en habit, habillé comme étaient habillés les enfants sous l'Empire. Cependant, quand le roi ou la reine décident de prendre en main l'éducation de leurs enfants, comme ce fut le cas pour Louis XVI et pour Marie-Antoinette, leur tendresse s'accompagne d'une certaine sévérité, comme en témoigne cet événement raconté par Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, dans ses mémoires. Je cite « Voulant donner à ses enfants une leçon de bienfaisance, elle m'ordonna de faire apporter de Paris, comme les autres années, la veille du jour de l'an, tous les joujoux à la mode et de les faire étaler dans son cabinet. » Prenant alors ses enfants par la main, elle leur fit voir toutes les poupées, toutes les mécaniques qui étaient rangées et leur dit qu'elle avait eu le projet de leur donner de jolies étrennes, mais que le froid rendait les pauvres si malheureux que tout son argent avait été employé en couverture, en harde, pour les garantir de la rigueur de la saison et leur donner du pain. Ainsi que cette année, ils n'auraient que le plaisir de voir toutes ces nouveautés. Décision un petit peu rude, en effet, à l'encontre du dauphin et de sa sœur. Mais heureusement, on sait par ailleurs que Marie-Antoinette gâtait également ses enfants en donnant à sa fille des poupées et en faisant venir, surtout pour les enfants et pour leurs amis, en les faisant assister à des séances de lanternes magiques, dont je vais vous parler tout de suite, et aussi à des ombres chinoises, avec le fameux séraphin qui venait spécialement du palais royal pour montrer ces ombres chinoises aux enfants royaux. Le roi, qui voulait être le propre gouverneur du dauphin, c'était vraiment sa décision, le récompense de son application à l'étude lorsqu'en 1792, c'est-à-dire au moment où la famille royale est au temple. Il donc récompense qui ? Et il continue à faire travailler son fils. Il le récompense par un bilboquet, deux bagnaudiers, c'est-à-dire des jeux dans lesquels on lance des petits anneaux, un beau damier et un solitaire provenant de la boutique du Singe Vert. C'est l'Assemblée nationale qui avait voté un budget pour les dépenses de la famille royale, ce qui d'ailleurs aura lieu tout au long de l'incarcération du dauphin, qui aura régulièrement des jouets pour le distraire de son isolement lorsqu'il sera seul. La description de la vie du couple royal et de ses enfants à la prison du Temple nous est fournie par le journal de Cléry, Cléry, valet de chambre de Louis XVI. Lorsqu'ils étaient encore réunis, nous apprenons que les enfants jouaient au volant, au palais, au siam, qui était une sorte de jeu de quilles, au tric-trac et aux dames. Pour illustrer ces jeux de société, je vous montre également un très très fameux jeu que vous devez connaître. ce jeu de loto qu'on a appelé le loto de dauphin, qui est constitué de six plateaux de bois et avec des tiroirs avec des fiches en os colorées que nous ne voyons pas ici, mais qui sont colorées, et également des fiches en os et en bronze qui représentent justement des dauphins. Vous pouvez peut-être les distinguer. Et ce jeu est conservé actuellement au musée Carnavalet et est régulièrement prêté lorsque on fait des expositions un petit peu prestigieuses justement sur l'histoire de France et sur les enfants royaux. Ce jeu qui proviendrait de la famille Barthélemy, qui occupait la partie du temple d'où elle fut expulsée pour y installer la famille royale. Parmi ces jouets, il y a aussi un autre petit jouet beaucoup plus touchant. C'est un petit toton. C'est un petit toton qui est simplement en bois, qui a été donné par Pauline de Tourzel, qui était la fille de la gouvernante Madame de Tourzel, au temple toujours. Madame de Tourzel ayant pu, au début de l'emprisonnement de la famille royale, visiter la famille. Et à cette occasion, elle a donné, ou sa fille en tout cas qui était avec elle, a donné au dauphin ce petit toton. Et ce n'était pas seulement un jouet, vous voyez, c'est une sorte de petite toupie. Il permettait, chaque fois qu'on le faisait tourner, d'échanger quelques paroles à voix basse sans être entendu par le gardien. Donc c'est une fonction tout à fait particulière. Tous ces jouets du temple, enfin en tout cas ceux qui ont pu être donnés par Madame de Tourzel, on en parle dans des récits qui ont été écrits par la suite, et ces jouets sont parvenus à la famille de Béard, et c'est d'ailleurs ce toton se trouve encore dans sa famille. Ici, un célèbre tableau qui représente Louis XVII par Madame Vigée-Lebrun, qui se trouve au musée d'Auxerre, nous intéresse parce que nous voyons le petit prince en train de jouer avec une émigrette. L'émigrette qui en fait est un yo-yo, ce jouet très ancien qu'on connaît déjà donc dans l'Égypte ancienne et qui sera à la mode de façon très populaire ensuite dans les années 1930. Et pourquoi s'appelle-t-il une émigrette? Parce que le va-et-vient de la ficelle qui tourne autour donc de ce petit jouet en bois symbolisait sous la Révolution l'aller et le retour des émigrés à cette période. Aussi le jeu s'appelait-il l'émigrette ou encore le jeu de Coblenz, qui était le principal lieu de ralliement des émigrés. Et j'ai trouvé cet autre document, peut-être pas très bon non plus, mais qui illustrera quand même très mauvais, qui vous montre quand même un personnage qui est en train de jouer à l'émigrette. Vous voyez que l'émigrette est absolument énorme. C'est le frontispice d'un livre de la même de cette époque. Cette émigrette est tombée ensuite dans les mains du Cléry au temple et il a été donné ensuite au comte de Noinville et où il est resté dans sa famille jusqu'à une vente en 1933. Et enfermé dans son écrin, gravé d'un dauphin, cette petite émigrette que nous avions prêtée lors de l'exposition qui a eu lieu au musée de Malmaison est toujours aussi chez des particuliers. Maintenant, si nous revenons à l'éducation des jeunes princes, au joujou pour jouer, tel était le terme qu'on utilisait, de la petite enfance, succèdent ceux qui doivent aider à l'apprentissage de la lecture, du calcul, de l'histoire et de la géographie. Les gouverneurs mettent à la disposition de leurs élèves des jeux et des jouets qui sont destinés à faciliter cet enseignement, qui est plutôt ardu lorsque les enfants sont jeunes. Et nous avons là justement quelque chose qui va être très très utilisé par les gouverneurs, plus que par les gouvernantes, puisque les enfants sont déjà grands. Ils vont se servir de la lanterne magique. Alors, la lanterne magique, c'est un objet magique. C'est un procédé qui consiste en projection lumineuse sur un écran d'images peintes sur une plaque de verre, comme vous voyez ici, et la source lumineuse est à l'intérieur de la lanterne. C'est un divertissement qui est très à la mode dans les salons dès 1755 et avant de se populariser dans les rues et dans les campagnes et qui donc a été utilisé non seulement comme divertissement mais également comme moyen d'enseignement à la cour. Et la première à s'en servir a été la marquise de Genlis. La marquise de Genlis qui a été, comme vous savez, chargée de l'éducation des enfants du duc et de la duchesse d'Orléans pendant leur adolescence en qualité de gouverneur, c'est-à-dire elle-même la gouvernante, c'était pour les enfants qui avaient moins de 7 ans, elle a eu en charge les enfants, les adolescents véritablement. Et elle était tellement reconnue pour ses capacités, pour sa manière d'enseigner, qu'on l'avait nommée gouverneur. Donc elle se servit de cette lanterne magique, non seulement pour divertir ses petits élèves, parce qu'elle pouvait les amuser, mais elle était très très sévère et très portée vers un enseignement pratique. Aussi, pour leur enseigner l'histoire et la géographie, se servait-elle de cette lanterne. Et bien que réticente au début, Marie-Antoinette également, elle, s'en servit, mais elle fit construire tout exprès une lanterne pour faire découvrir la Bible et l'histoire de France à son fils, le dauphin. Et là m'est venue une idée qui est peut-être un peu saugrenue, mais que j'ose vous dire maintenant. On pourrait peut-être comparer cette lanterne magique à l'enseignement qui est donné actuellement en Angleterre dans certaines écoles britanniques avec l'iPad. C'est-à-dire que les enfants ont chacun ce petit écran et on leur apprend les tables de multiplication et un certain nombre de choses, bien sûr, le dessin, la peinture, mais c'est tout de même cela et c'est aussi une nouveauté. Toutefois, cette boîte à lumière, comme on appelait la lanterne magique, ne fut pas du goût de tous les précepteurs. Quelques années plus tard, Madame de Gantot, qui était la gouvernante du duc de Bordeaux et de sa sœur Louise, déclare au sujet de ce procédé « La méthode d'enseigner en s'amusant est de mode et me paraît mener une éducation tout à fait superficielle. » Aussi, c'est peut-être pourquoi les récompenses de Madame de Gantot consistaient en jetons payés par le roi et la reine et dont le montant était consacré aux bonnes œuvres. Même avec beaucoup de joie à sa disposition, on voit aussi qu'il n'était pas toujours drôle d'être fils de roi. Les jouets n'ont pas seulement eu une fonction ludique et pédagogique, princes et princesses, s'ils reçoivent la même éducation, sont destinés à des tâches différentes. Comme les autres enfants, ils doivent s'initier à leur vie d'adulte. Leurs jouets et leurs jeux en sont le reflet. Aux garçons, l'on donne les chevaux, les soldats, des canons, et des épées, vous en avez vu tout à l'heure, avec de bien meilleurs clichés que ceux que je vous donne. Je vais tout de même vous montrer le petit canon du roi de Rome. Voilà. Car les héritiers masculins seront amenés à monter à cheval, à conduire un régiment et, le cas échéant, à faire la guerre. Leurs jouets sont donc guerriers. Alors, ce petit canon du roi de Rome, qui est en bronze tout simplement, qui n'est pas précieux du tout, et tout de même, tout ce qui concerne ces petits princes qui ont tous eu des destinées très tristes, leurs jouets ne sont pas très, ont aussi des histoires qui ne sont pas très gaies. Parmi tous les jouets qu'il a pu obtenir, et dont je parlerai encore un petit peu plus loin, le roi de Rome avait donc ce petit canon, et c'est la seule pièce, le seul jouet de son fils que Napoléon a pu emporter lorsqu'il est parti à Sainte-Hélène. Donc c'est un souvenir de son fils qu'il ne reverra jamais, qu'il avait emporté à Sainte-Hélène et qui est conservé actuellement au musée de Malmaison. Aux filles, en revanche, on offre des ouvrages d'aiguilles, des petits ménages, qui en fait, on voit souvent mentionner le titre de petits ménages, ce qui va au-delà de la dinette simplement. Ce sont aussi des ensembles, des petits mobiliers, beaucoup de choses. Et les poupées, bien évidemment. Encore que ces dernières, qui sont très rares pendant longtemps, étaient aussi données aux petits garçons. On donne des poupées à Louis XIII, on en donne également au roi de Rome. En 1788, pour l'anniversaire de la petite Adèle d'Osmond, qui deviendra la comtesse de Boigne et qui vit à la cour de Marie-Antoinette, Madame Adélaïde fait réaliser une grande poupée avec un trousseau, une corbeille de bijoux et un lit à la duchesse. Et Madame de Boigne précise dans ses mémoires « Tout le monde se mit à jouer avec ma nouvelle propriété. On voulut me faire remplacer la poupée dans le lit et la reine et Madame Élisabeth s'amusèrent à le faire avec des éclats de rire. » Et c'est vrai que les poupées ont la particularité de plaire aux jeunes femmes qui sont souvent oisives et qui se plaisent à jouer comme les petites filles, en fait. Et c'est vrai qu'on trouve aussi cette allusion aux poupées, à la cour et à toutes les dames qui s'affolent devant ces poupées dans de nombreux récits. Les soldats en plomb, en étain ou en papier, qui ont la faveur des princes, servent aussi à leur apprentissage. Ils en possèdent des armées entières. Pour l'introduction et le divertissement du dauphin, que l'on rencontre dans les contes de l'année 1669, dans les contes de Louis XIV, le roi fit exécuter une véritable armée de 20 escadrons de cavalerie et de 10 bataillons d'infanterie en carton découpé et peint. le roi de Rome, lui encore, qui d'après ce qu'écrit sa mère ne parle que de bataille, possède des trompettes, des tambours et des soldats, dans toutes les matières. Pour son premier anniversaire, le 20 mars 1812, Napoléon et Marie-Louise donc commandent à l'orfèvre Odio 240 figurines en plomb recouvertes d'un plaquage en or. Et emportées à Schönbrunn en 1814, tous ces soldats furent ensuite repeints, enfin tous ces soldats, une partie parce que les 240 ont dû être dispersés, furent repeints aux couleurs de la garde de Marie-Louise, que vous pouvez les voir ici, en noir, en bleu et en rouge. Et ils sont actuellement dans une collection privée. Mais reste au musée, vous l'avez vu tout à l'heure aussi, à Compiègne, au musée de l'armée, de nombreux soldats, enfin, quelques soldats, pas de nombreux, mais des soldats qui ont appartenu aussi au prince impérial et au roi de Rome. Le cheval, donc, est un jouet favori des garçons. C'est le cheval bâton, que l'on voit aussi beaucoup reproduit dans les gravures du XVIe siècle et du XVIIe siècle, puis le cheval de bois sculpté et harnaché, des chevaux à roulettes ensuite et des chevaux à bascule. En ce qui concerne les chevaux, celui qui bat véritablement le record des chevaux de tout ce qu'il a pu posséder, c'est le prince impérial. Le prince impérial est passionné de chevaux dès son plus jeune âge. On le fait monter très tôt également à cheval. Et il possède plusieurs de ses chevaux de bois à Compiègne et au Louvre. Et il joue également avec des boîtes, avec des quilles. Et on voit ici, c'est un prince qui nous intéresse beaucoup parce que nous en avons la trace. Ah, je me suis trompée là. Alors, il y avait une gravure donc, photographiée dans un journal qui nous montre en effet la chambre du prince impérial et où l'on voit toutes sortes de jouets. Le prince impérial, en effet, avec l'autorisation de Génie, recevait, en compagnie aussi donc, de sa préceptrice ou de la personne qui s'occupait de lui, Miss Schoen, je crois, des journalistes. Et il parlait avec eux et il leur disait en effet ce qu'étaient ses jouets et on photographiait l'intérieur de sa chambre et de son salon, aussi bien au Louvre qu'à Compiègne. Car en effet, le prince qui est né au milieu du XIXe siècle reçoit des prototypes. Voilà, ça nous montre le petit chemin de fer qui avait été élevé dans le parc de Saint-Cloud un chemin de fer miniature qui avait été élevé pour le prince impérial à Saint-Cloud. Et il y avait un petit texte qui l'accompagnait en nous disant en effet que c'était magnifique, que c'était très grand, qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour accompagner le petit chemin de fer, que les rails étaient en 8, là on ne le voit pas en 8, et que la locomotive fonctionnait à ressort. Alors on peut en être étonné, apparemment la vapeur n'était pas utilisée ou peut-être trop dangereuse pour le prince. C'était un train qui fonctionnait avec un ressort. Il faut savoir aussi en quelle occasion et par qui étaient offerts ces jouets. Les textes nous apprennent que les moments privilégiés dans l'année sont le jour de l'an et le jour de naissance. C'est l'anniversaire qu'on appelle toujours jour de naissance. Et parfois aussi le jour de la fête. Ce sont donc ces dates, en général, où le roi, la reine et la famille offrent des cadeaux aux enfants de la cour. Impatients, ces enfants ont parfois envie de devancer la date, comme l'explique l'impératrice Marie-Louise à propos de son fils dans une lettre adressée le 18 mars 1814 à Napoléon. Il me tourmente depuis ce matin pour savoir les cadeaux que je lui ferai pour son jour de naissance. Je me suis vue obligée de lui livrer quelques-uns de ses joujoux. Tu vois, comme je suis faible. Et Marie-Louise, en effet, à cette période-là, elle nous fait véritablement pitié. Si après, elle oublie complètement Napoléon, en revanche, à cette période où elle est séparée du petit roi de Rome, justement parce que Napoléon a choisi qu'il soit entièrement pris en charge, peut-être pensant que son épouse n'était pas capable de le faire, en tout cas c'était aussi la tradition, prise en charge entièrement par Madame de Montesquieu, notre pauvre Marie-Louise a beaucoup de mal à être très proche de son fils et elle s'en plaint beaucoup. Elle s'en plaint autour d'elle dans des lettres et elle a envie de le gâter beaucoup. Et c'est ce qu'elle dit en général. Elle veut le gâter le plus possible. Malheureusement, en tout cas dans ce témoignage que j'ai trouvé en 1814, c'est bien tard, car elle n'aura vraiment plus après cette date la possibilité de le faire, puisque 3 mois plus tard, c'est donc l'adieu de Fontainebleau. Tous les jouets de l'enfant, il a 3 ans, sont emballés et vont prendre la direction de Schönbrunn. Et ils vont rester dans des caisses pendant 1 an. Et un an plus tard, Madame de Montesquiou est encore avec lui à ce moment-là, mais elle va bientôt partir. Et on va ouvrir ses malles et découvrir tous les jouets qui ont été donnés, une partie des jouets qui ont été donnés au roi et que lui-même va donner. Et c'est ce que nous rappelle aussi dans un texte l'historien Octave Aubry, qui a beaucoup parlé de la famille royale, de la famille impériale, pardon. Ses plus beaux jouets, son petit fusil, le cimeterre avec lequel il jouait aux Mamelucs, ses décorations de France, des médailles, le hochet de corail offert par sa tante Caroline, son voile de baptême, il donne tout avec des sanglots qui l'étouffent. Il ne veut rien garder de ses trésors puisque ses amis s'en vont et qu'il ne les reverra plus. Les enfants de Louis-Philippe et de la reine Amélie ont plus de liberté qu'à l'époque précédente et c'est en compagnie de leur gouverneur qu'ils se promènent dans les rues de Paris avec un peu d'argent dans leur poche pour acheter des petites babioles et aussi faire la charité. Ça compte évidemment beaucoup, surtout pour Marie-Amélie. Les autres occasions de recevoir des cadeaux, ce sont les visites officielles d'un souverain ou un événement particulièrement marquant, cadeaux plutôt de prestige. Il s'agit alors de présents d'ailleurs diplomatiques, comme cette célèbre petite calèche du roi de Rome, qui se trouve actuellement à Schönbrunn et qui a été offerte en 1812 par la reine Caroline, qui était la marraine donc, du roi de Rome. Mais peut-on vraiment le considérer comme un jouet ou au contraire comme un modèle réduit? En tout cas, c'était tout de même une très belle pièce et on voit aussi c'était pas seulement une très belle pièce, mais c'est quelque chose qui était une image qui a beaucoup plu aussi, puisque le petit prince qui se promenait, au vu de tout le monde dans sa calèche, était guidé, cette calèche, par deux boutons mérinos, on en parle beaucoup aussi dans les récits, qui avaient été dressés par les frères Franconi, qui avaient un cirque à Paris. Donc cette représentation du petit roi dans sa calèche fait partie un peu de toute la légende aussi, qui est relative au petit roi de Rome. Alors, cadeau donc diplomatique, parce que tout de même, Caroline, même si elle était la marraine, elle avait aussi bien à se faire voir de son frère de temps en temps, ou se faire pardonner aussi. Donc, c'était une façon aussi d'offrir un très très beau cadeau à son fils. Et puis, ou alors, comme autre cadeau ou autre commande particulière, un canon et son attelage en ivoire, en or et en pierres précieuses, cette fois-ci, commandé par Napoléon en 1815, pour le roi de Rome encore et pour son anniversaire, et que celui-ci n'aura certainement pas le temps de voir, puisqu'il était déjà parti pour l'Autriche. Ou encore, un autre exemple, une pagode chinoise entourée de magots, envoyée par le consul français de Shanghai pour le prince impérial. Et là, je regrette que ma photo n'ait pas été dans le bon sens tout à l'heure, parce que dans la chambre, on voyait justement ce qui ressemblait à cette pagode. Enfin, dernier point que je voudrais aborder, c'est celui des achats et des commandes. Où étaient acquis ces jouets, beaux, exceptionnels ou communs? Déjà au XVIIe siècle, Hérouard nous apprend que le jeune Louis XIII se rendait dans les foires et dans les fabriques. À ces jouets modestes, il faut bien sûr ajouter ceux qui étaient commandés par le roi ou la cour à des artisans et à des orfèvres. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, les vendeurs étaient les bimbelotiers, des tabletiers, des merciers. Certains fournisseurs attitrés sont d'ailleurs fiers d'inscrire sur leur en-tête de lettres « marchands des enfants de France », comme ce fut le cas de la maison Jouel à Paris, G-U-H-E-L, Jouel à Paris, qui a fourni des jouets à Madame de Genlis. Avant la Révolution, le magasin du Petit Dunkerque, très connu, avait pignon sur rue pour tout ce qui concerne la bijouterie et les petits bibelots, mais aussi des jouets mécaniques, qui sont très très nombreux auprès des princes. On trouve dans les contes de l'impératrice Joséphine, qui recevait les enfants de sa fille Hortense à Malmaison, les factures de la veuve Storr. Sa boutique était au Palais Royal, comme la plupart des marchands de jouets. En 1814, Marie-Louise achète pour son fils à la maison Mitou plusieurs boîtes de soldats et un tambour. Et sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, c'est la maison Giroux qui est la plus connue et c'est celle qui fournit les jouets des familles princières, dont un mobilier de poupées pour Mademoiselle d'Artois, sœur du duc de Bordeaux, petit mobilier qu'on peut voir au musée à Bordeaux, et des jouets scientifiques aussi pour le prince impérial. Donc pour résumer et pour conclure cette petite intervention, je dirais que ce voyage dans l'histoire au pays des enfants princiers nous apprend plusieurs choses. que prince et princesse sont élevés ensemble dans les mêmes principes et suivant les mêmes règles, mais que passé la petite enfance, leurs jouets sont différents. Ces jouets très variés vont des petites vaisselles de bois ou de terre, des bains blottiers, aux luxueux modèles en or et en vermeil des orfèvres. Les héritiers royaux, précieux et protégés eux-mêmes, ne vivent pas pour longtemps dans un monde clos. Ils peuvent avoir des camarades. On entretient d'ailleurs chez eux une certaine sociabilité. Et les enfants ont l'occasion de sortir, en certaines circonstances, pour faire des emplettes dont les jouets font partie. Enfin, en ce qui concerne, ce n'est pas plutôt le moindre intérêt de cette étude qu'on pourrait porter un peu plus longue sur ces jouets, les princes ont le privilège de posséder des jouets automates, et d'un mécanisme ou d'un mécanisme qui est tout à fait exceptionnel. Donc ce sont les premiers bénéficiaires des inventions techniques de leur époque. Et à l'aube de l'industrialisation, le cheval mécanique est qui est présenté dans l'exposition et le chemin de fer du prince impérial sont évidemment tout à fait caractéristiques. Et lui-même est le dernier représentant de cette dynastie princière. Et donc voilà, ce sont les points que je voulais un petit peu développer devant vous aujourd'hui, mais bien d'autres mériteraient probablement de l'être. Merci.